Alors ce soir, nous avons le plaisir d'entendre, nous allons avoir le plaisir d'entendre Delphine Chapuis-Schmitz, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'elle a déjà eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de ce séminaire et dans d'autres occasions, donc, puisqu'elle a été à Terre au Collège de France. Et pour le moment, elle fait de la recherche dans le cadre d'un
programme de recherche.
Voilà, programme de recherche Logiscience à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Alors, Delphine Chapuis-Schmitz, c'est probablement une de nos meilleures, parmi les jeunes philosophes de sa génération, une de nos meilleures spécialistes en ce qui concerne la philosophie, l'œuvre philosophique de Schlick, de Carnap et du Cercle de Vienne en général. Alors, ce soir, elle a choisi de nous parler d'un sujet qu'elle avait d'abord intitulé, Analyticité et vérité logique, Wittgenstein et Carnap. Alors là, le titre est devenu est un petit peu différent. La grammaire logique et la syntaxe logique sont-elles incompatibles? La grammaire logique, ça, évidemment, ça renvoie de façon très claire à Wittgenstein, et la syntaxe logique, donc, de façon non moins claire à Carnap, auteur, comme vous le savez sans doute, d'un livre paru en 1934 qui est un... Popper a dit que il faisait partie des 10 classiques. S'il fallait donner une liste de 10 ouvrages classiques dans le domaine de la philosophie exacte au XXe siècle, il y inclurait la syntaxe logique du langage, ce qui, je crois, est tout à fait justifié. Mais enfin bon, ça, la question de l'importance intrinsèque de la contribution de Carnap est une question différente et une question en soi. Donc ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de confronter la position respective de Wittgenstein et celle de Carnap à l'égard de ce qui a été considéré par beaucoup de gens comme une façon de répondre à la question de quelle nature sont exactement quel genre de vérité représentent les vérités logiques et mathématiques. Une façon de répondre à cette question qui a séduit beaucoup de gens a consisté à dire que ce qui caractérisait les vérités logiques, les vérités mathématiques, c'est le fait d'être des vérités analytiques. Et il est particulièrement difficile de déterminer avec exactitude ce qu'a pu être la position de Wittgenstein à l'égard de ce type de réponse. Mais là, je ne vais pas anticiper sur ce que Delphine a à nous dire. Je vais donc lui donner immédiatement la parole.
Je vous remercie.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette présentation. Et je vous remercie également, ainsi que Jean-Jacques Rosa, d'avoir pensé à moi pour participer à ce séminaire. Alors, en fait, ce que vous venez de dire sur le changement de titre de mon exposé me fait prendre conscience du fait que le changement de titre, enfin, j'en avais déjà conscience, mais en tout cas, me permet d'insister sur le fait que le changement de titre est beaucoup plus important et significatif que ce qui pourrait sembler au premier abord, dans la mesure où on verra que, évidemment, je vais parler de la question du statut des vérités logiques et de l'analyticité, mais ce qui va m'intéresser plus fondamentalement, en fait, c'est d'interroger le type de conception que Wittgenstein et Carnap ont pu défendre du fonctionnement du langage, et pour lequel la notion de règle linguistique, et donc pas seulement de règle logique ou de proposition analytique, joue un rôle déterminant. Donc on verra dans quel sens cet élargissement est significatif au cours de l'exposé. Donc ce qui va m'intéresser, c'est à la fois de présenter leurs conceptions respectives en ce qui concerne donc, la grammaire logique et la syntaxe logique, d'examiner dans un premier temps les rapports d'influence mutuelle que l'on peut mettre au jour, hein, en ce qui concerne les positions donc, respectives de Carnap et Wittgenstein sur ce point, et dans un deuxième temps, de m'interroger sur la possibilité d'articuler ou non les conceptions respectives de Carnap et de Wittgenstein en ce qui concerne la grammaire logique et la syntaxe logique, et donc plus généralement en fait en ce qui concerne le statut des règles linguistiques dont on va voir qu'elles jouent un rôle déterminant pour chacune de ces positions. Donc le point véritablement, la notion centrale qui va m'intéresser, c'est d'essayer d'élucider cette idée de règles linguistiques et le statut et la fonction de ces règles. Alors, avant d'aller plus loin, je vais mentionner un autre point dont j'aurais pu parler, mais dont je ne vais pas parler. En ce qui concerne la question des usages ou de l'influence que Wittgenstein ou Carnap a pu avoir sur la pensée de l'autre, un autre point ou un autre type de problématique sur laquelle on pourrait s'interroger dans cette perspective, c'est celle du phénoménalisme, donc de l'idée selon laquelle il y aurait un langage dont les propositions représenteraient la structure du donné ou seraient dans un lien immédiat avec la structure du donné. C'est un point sur lequel il serait intéressant de s'interroger sur les usages que Carnap et Wittgenstein ont pu faire de la pensée de l'un et de l'autre. Un autre point connexe, c'est le problème du physicalisme. Bon, ce sont des choses dont je ne parlerai pas du tout ici. Hein. Je les mentionne juste pour souligner ou donner une idée de la portée des relations que l'on peut tracer entre les pensées donc, de Wittgenstein et de Carnap, et plus généralement de l'empirisme logique du cercle de Vienne, hein, puisqu'on sait que la pensée de Wittgenstein et notamment le Tractatus Logico-Philosophicus ont une importance décisive sur la formation des idées de l'empirisme logique du cercle de Vienne. Même si, on va le voir sur le point que je vais discuter ici, il faut mentionner que la lecture que les empiristes logiques du cercle de Vienne ont faite du Tractatus est directement déterminée par leurs propres problématiques et leurs propres interrogations. Et c'est une chose sur laquelle Carnap est particulièrement clair dans son autobiographie qui a été publiée en 1963. Il dit clairement que les idées de Wittgenstein ont intéressé les empiristes logiques pour autant qu'ils pouvaient les assimiler à leur propre conception. Et donc il faut évidemment prendre des pincettes quand on souligne l'influence de Wittgenstein sur le cercle de Vienne. Pour mentionner, avant de rentrer dans le vif du sujet, un dernier point en ce qui concerne donc plus généralement la question de l'influence de Wittgenstein sur l'empirisme logique et sur le cercle de Vienne, je voudrais juste mentionner le fait que la position à l'égard de Wittgenstein et de la pensée de Wittgenstein était une question qui a fait l'objet de débats au sein du cercle de Vienne et progressivement une ligne de démarcation a été tracée entre les membres qui étaient favorables ou qui suivaient la pensée de Wittgenstein et ceux qui avaient adopté une attitude plus critique. Et Carnap fait partie de ceux qui adoptaient une attitude peut-être plus critique ou en tout cas moins directement, qui n'était moins directement sous l'influence de Wittgenstein que un philosophe comme Schlick, par exemple, ou Weismann, de façon beaucoup plus prégnante. Dernier point, avant de commencer, en ce qui concerne la rencontre effective entre Carnap et Wittgenstein, je voudrais juste mentionner que par l'intermédiaire de Schlick, Carnap a rencontré Wittgenstein pour une série de rencontres, précisément, et pas d'entretien ni de discussion, puisque Carnap raconte que la plupart du temps, Wittgenstein parlait sans véritablement entrer dans un dialogue avec les personnes qui étaient présentes lors de ces rencontres. Et donc, Carnap a eu l'occasion de rencontrer Wittgenstein à plusieurs reprises entre 1927 et 1929, date à laquelle Wittgenstein a demandé à Schlick de dire à Carnap de ne plus venir assister à ces rencontres. Voilà. Donc, c'est Wittgenstein qui a mis fin à ces rencontres et on verra au fil de l'exposé bon, une des raisons pour lesquelles peut-être il y avait là une incompatibilité fondamentale du point de vue de Wittgenstein entre sa pensée et celle de Carnap. Alors, donc, ce qui va m'intéresser, c'est la question du rapport entre grammaire et syntaxe logique et donc ce sont là deux types de positions qui ont été défendues par Wittgenstein et par Carnap respectivement dans les années 30. Donc mon point de départ va être véritablement leurs positions telles qu'elles sont défendues dans les années 30. Et si on veut donner une première caractérisation générale de ce, enfin, qui permet de regrouper grammaire et syntaxe logique dans un même type de conception, on peut s'appuyer, à mon sens, sur un article dont j'avais déjà parlé l'an dernier au séminaire, dans ce même séminaire, pour ceux qui étaient là, donc un article de Skorupski de 97, dans lequel Skorupski affirme que ces deux types de positions et donc de conception du fonctionnement du langage représentent des positions alternatives à la fois à une position naturaliste et à la fois à une position platoniste en ce qui concerne précisément le statut de la philosophie et la nature du langage. Alors, plus précisément, ces deux positions consistent à affirmer que certaines règles linguistiques sont décisives pour déterminer la signification d'expression du langage et que le rôle de la philosophie est donc de clarifier la signification en mettant au jour ces règles linguistiques. Je donne une caractérisation très schématique hein, de ce type de position pour l'instant, mais juste pour essayer de préciser les choses un petit peu. Et ça s'oppose à la fois à une position naturaliste qui n'admettrait pas précisément une telle distinction entre règles linguistiques et énoncés formulés à partir de ces règles ou dans un tel cadre linguistique, et une position platoniste qui considérerait que les significations sont déterminées par rapport à des idées qui auraient un statut spécifique dans un domaine non empirique spécifique. Skorupski affirme en outre ce type de position permet de dépasser d'une certaine manière le kantisme, enfin s'inscrit dans la lignée du kantisme tout en dépassant le type de problème, notamment l'idéalisme auquel le kantisme peut se voir confronté. Et de ce point de vue, je voudrais citer une autre citation. On va mentionner une autre citation de Coffa, Alberto Coffa, dans un ouvrage de 1991. Vous aurez toutes les références complètes à la fin de l'exposé. Citation dans laquelle Coffa compare le type de révolution copernicienne opérée par Kant au type de révolution qu'auraient effectué Carnap et Wittgenstein respectivement, en thématisant donc cette idée de grammaire et de syntaxe logique respectivement. Et donc Coffa affirme, on pourrait reprendre la célèbre déclaration copernicienne de Kant pour énoncer leur position, donc il s'agit des positions de Carnap et de Wittgenstein. Si notre connaissance a priori doit se conformer à la constitution des significations, alors je ne vois pas comment nous pourrions en savoir quoi que ce soit a priori, mais si les significations doivent se conformer à l'a priori, alors je n'ai pas de mal à concevoir une telle possibilité. Donc l'idée ici, dans le cadre de la grammaire ou de la syntaxe logique, est que précisément les significations doivent se conformer à un ensemble de règles linguistiques qui déterminent un langage. Voilà. Alors on trouve une citation tout à fait similaire, me semble-t-il, dans la syntaxe logique de Carnap, précisément, qui met en lumière, enfin, qui souligne véritablement cette fonction constitutive des règles pour ce qui est de la signification des symboles et des termes logiques et mathématiques. Donc, dans cet ouvrage qui date de 1934, Carnap affirme, je crois que c'est dans l'introduction, et c'est la traduction de Jacques Bouvresse que je cite ici, jusqu'à présent, pour construire un langage, on procédait habituellement de la façon suivante. On assignait d'abord une signification aux symboles mathématico-logiques fondamentaux, et on examinait alors quelles propositions et quelles inférences apparaissaient comme logiquement correctes en se fondant sur cette signification. Les paragraphes, c'est moi qui les ai faits pour que ce soit plus clair, mais le texte est à la suite. Puisque l'attribution de la signification est exprimée en mots et est par conséquent inexacte, aucune des conclusions auxquelles on parvient par ce moyen ne peut être elle-même tout à fait exempte du défaut d'inexactitude et d'ambiguïté. Par conséquent, la liaison ne deviendra claire que si on la considère dans le sens opposé. Donc là, on a véritablement ce type de renversement copernicien que Coffa met en lumière. Supposons que des postulats et des règles d'inférence quelconques aient été choisis de façon arbitraire, alors ce choix, quel qu'il puisse être, déterminera la signification qui doit être attribuée aux symboles logiques fondamentaux. Donc là, on a véritablement un renversement de perspective selon lequel la signification des symboles logiques est déterminée à partir des règles qui déterminent un cadre linguistique spécifique et non de manière antérieure. On verra que cette idée peut s'étendre à la signification en général de tout terme d'un cadre linguistique ou toute proposition d'un cadre linguistique. Et on verra ça en détail par la suite. Alors, si on reprend de manière un peu plus schématique le cadre à partir duquel on peut penser que la grammaire logique et la syntaxe logique constituent des positions similaires, on peut parler, donc, à mon sens, de normativisme linguistique, comprenant ces deux types de positions. Et cette conception est caractérisée par l'idée selon laquelle les règles linguistiques fonctionnent comme un a priori, au sens où elles sont constitutives de la signification, et en tant que telles, ces règles n'ont pas de contenu factuel. Elles sont dépourvues de tout contenu. Et par conséquent, le rôle de la philosophie est précisément de procéder à une clarification du sens en mettant au jour les principes de fonctionnement de la signification tels qu'ils sont déterminés par un ensemble de règles linguistiques. Donc on voit bien là comment ce type de position s'oppose à la fois à une conception naturaliste et à la fois à une conception platoniste du fonctionnement du langage, comme le mentionnait Skorupski, comme je l'ai mentionné au début de mon exposé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est m'interroger sur, à partir de ce cadre général, sur les rapports d'influence et les points d'accord et de désaccord que l'on peut mettre en lumière entre Carnap et Wittgenstein au sein de ce cadre partagé. En premier lieu, je vais m'intéresser à l'influence que l'on peut déceler du Tractatus sur la position que j'appelle donc le normativisme carnapien. Et ici, je vais, dans un premier temps, citer Carnap lui-même, qui, dans la syntaxe logique du langage, paragraphe 73, souligne lui-même les points d'accord avec la position de Wittgenstein dans le Tractatus et affirme qu'ils ont influencé la propre position qu'il défend et qu'il développe dans cet ouvrage. Donc, cette influence telle que Carnap la présente concerne trois points. Le premier point est le statut des vérités logiques. Et ici, Carnap affirme... Alors, j'ai repris là une citation de l'autobiographie de 63, parce qu'elle était plus appropriée et plus compacte pour la présentation, mais on trouve une affirmation similaire dans le paragraphe 73 de la syntaxe. Donc, Carnap affirme, l'idée la plus importante que j'ai retenue de son travail, donc il s'agit du travail de Wittgenstein, était la conception selon laquelle les énoncés logiques sont vrais dans toutes les circonstances concevables et leur vérité est par conséquent, indépendante des faits contingents du monde. D'un autre côté, il s'ensuit que ces énoncés ne disent rien sur le monde et n'ont donc pas de contenu factuel. Un deuxième point d'influence reconnu par Carnap concerne le statut des propositions métaphysiques. Et Carnap affirme ici, l'évolution la plus décisive dans ma conception de la métaphysique s'est produite principalement sous l'influence de Wittgenstein. J'en suis venu à défendre la conception selon laquelle plusieurs des thèses de la métaphysique traditionnelle ne sont pas seulement inutiles, mais également dépourvues de contenu cognitif. Donc on voit ici que non seulement les vérités logiques, mais aussi les propositions métaphysiques sont dépourvues de contenu factuel, de contenu cognitif, bien évidemment dans un sens qui est censé être différent. Puisque les deux n'ont pas le même statut et la même fonction. On reviendra sur ce point par la suite. Troisième point mentionné par Carnap, qui concerne le rôle de la philosophie, et Carnap affirme ici, selon Wittgenstein, la philosophie est une critique du langage, donc il mentionne le Tractatus, sa tâche consiste dans la clarification logique des idées, des propositions et des concepts de la science, c'est-à-dire, pour utiliser notre vocabulaire, dans la logique de la science. Donc, ces trois idées sont évidemment liées à cette conception que j'ai pu qualifier de normative du fonctionnement du langage et du statut des principes qui le gouvernent, et notamment des principes logiques. Mais si on regarde plus précisément les positions respectives et le cadre dans lequel s'inscrivent ces conceptions en ce qui concerne le statut des vérités logiques, des propositions métaphysiques et le rôle de la philosophie, on se rend compte que l'accord de surface que l'on peut mettre au jour entre Carnap et Wittgenstein est quand même problématique. Et en ce qui concerne plus spécifiquement le statut des vérités logiques, je vais m'appuyer ici sur une citation de Friedman qui discute de manière détaillée cette question de l'influence du Tractatus sur la conception de Carnap des vérités logiques et des propositions analytiques. Et donc, il résume les choses de la manière suivante. Michael Friedman. En résumé, on peut exprimer la différence essentielle entre les deux conceptions de la manière suivante. Le Tractatus commence avec une image philosophique de la nature de la représentation douée de sens. Ici, Friedman fait référence à la théorie de la proposition image et au fait qu'une proposition représente dans la mesure où elle a une forme logique correspondante à l'état de choses qu'elle représente. Donc, dans le Tractatus, selon Friedman, on a une conception de la nature de la représentation et du fonctionnement du langage qui est antécédente, qui est première par rapport à la question du statut des règles logiques et notamment des propositions analytiques. Et donc, je continue la citation, « Sa conception selon laquelle les propositions analytiques ou tautologies valent pour toute distribution des valeurs de vérité sur les propositions élémentaires découle directement de son image philosophique première de la représentation douée de sens. » Par opposition à cela, Carnap ne part pas d'une image philosophique de ce genre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de conception antérieure de la nature de la représentation. Il part simplement de l'idée d'un langage formel syntaxiquement spécifié par des règles de formation et de transformation. Il n'y a pas de notion indépendante, en particulier de ce que cela signifie pour un signe que de représenter un objet dans le monde ou pour une phrase d'affirmer quelque chose sur le monde. L'affirmation de Carnap selon laquelle les phrases analytiques sont vides de contenu factuel et n'affirment rien sur le monde a par conséquent un sens et une force entièrement différentes de ceux de l'affirmation de Wittgenstein apparemment similaires. Donc ça, c'est un point qui me semble particulièrement important pour comprendre le statut des propositions analytiques et la manière dont le fait de dire qu'elles sont dépourvues de contenu factuel peut signifier des choses différentes et impliquer des choses différentes quant à la fonction de ces propositions, dans la mesure où, dans un cas, on a une conception antécédente de la manière dont le langage fonctionne, d'où découle le fait que les propositions analytiques sont, elles, dépourvues de tout contenu factuel, alors que dans un autre, dans la position de Carnap, on n'a pas d'image antécédente qui vient déterminer, pour ainsi dire, le statut des propositions analytiques. Donc elles sont directement vides de contenu, indépendamment de toute conception antérieure du fonctionnement de la représentation. Donc si on reprend les choses à partir de là, en ce qui concerne donc, toujours le statut des principes logiques, on voit que les points d'accord sont les suivants. Ils ne disent rien du monde, ils sont vides de tout contenu. Ils exercent une fonction constitutive, hein, c'est là le sens de la révolution copernicienne du normativisme linguistique, enfin, l'analogie qu'on peut faire entre les deux. Mais cette idée, déjà sur cette idée, on voit se dessiner une ligne de partage entre le tractatus, puisque cette idée doit être comprise là comme disant que ces principes logiques déterminent les opérations de pensée, les inférences légitimes dans le langage, alors que dans la syntaxe logique, cette fonction constitutive doit être comprise comme l'idée selon laquelle les principes logiques déterminent les notions de proposition, conséquence, validité, analyticité, etc., pour un langage, c'est-à-dire pour un cadre linguistique déterminé. Donc, plus spécifiquement, les points de désaccord concernent ce statut des principes logiques, si l'on suit l'interprétation de Friedman, qui me semble pertinente sur ce point. Pour le tractatus, ils sont imposés d'une certaine manière par la nature de la représentation, alors que pour la syntaxe logique, enfin dans le cas de la syntaxe logique, Carnap affirme qu'ils sont soumis à nos seules décisions. Un autre point de désaccord tout à fait fondamental qui est souligné par Carnap et qui est lié à ces questions ici, concerne la question de savoir si on peut exprimer la syntaxe, si on peut exprimer de manière sensée les principes logiques et plus généralement les règles linguistiques qui déterminent un langage. Alors, en ce qui concerne ce point, la réponse de Wittgenstein dans le tractatus est négative. Hein. Wittgenstein affirme « La proposition ne peut représenter la forme logique, celle-ci se reflète dans la proposition, précisément parce que cette forme logique touche à la nature de la représentation et en tant que telle ne peut pas être elle-même, ne peut pas faire elle-même l'objet d'un discours à proprement parler, doué de sens. » Alors, contre cette façon de voir, Carnap affirme « À l'encontre de cette façon de voir, la construction que nous avons donnée de la syntaxe a montré que celle-ci peut être formulée de façon correcte et qu'il existe des propositions syntaxiques. » Il faut mentionner ici que cette idée selon laquelle on ne peut pas exprimer la forme logique était un point sur lequel Carnap ne pouvait pas accepter. Il adhérait certes à cette idée de Wittgenstein selon laquelle les principes logiques sont dénués de contenu factuel, et pour lui, comme il le mentionnait, comme c'est apparu dans la citation que j'ai indiquée, ça a été un point véritablement important pour la constitution de sa pensée, mais il ne pouvait pas se résoudre à accepter l'idée corrélative selon laquelle il n'est pas possible d'exprimer ou de formuler de manière correcte de tels principes. Et ça, donc là, on a un point, à mon sens, d'influence, là encore d'influence de Wittgenstein, mais une influence négative, pourrait-on dire, puisque ça conduit Carnap à essayer de trouver une réponse, enfin, ou à essayer de montrer que, finalement, si on pouvait exprimer de manière correcte la syntaxe, et ce qui aboutit à la syntaxe logique du langage en 34. Alors, ce que je voudrais indiquer maintenant, donc après avoir montré ce point de désaccord fondamental, malgré donc, les points d'accord apparents entre la position du tractatus en ce qui concerne le statut des principes logiques et la position de Carnap dans la syntaxe, ce que je voudrais mentionner maintenant, c'est une évolution dans la pensée de Wittgenstein entre le tractatus et sa position dans les années 30. Et ce que je vais essayer de voir, c'est si cette évolution permet finalement de rapprocher sa position, plus fondamentalement, de celle de Carnap ou pas. Donc, du tractatus aux années 30, un point vraiment décisif dans l'évolution de la pensée de Wittgenstein à ce moment-là, c'est l'abandon de la théorie de la proposition image telle qu'il avait pu la développer dans le Tractatus. Et une conséquence de cela, c'est que la signification est déterminée directement par les règles du langage sans qu'il y ait auparavant de théorie, entre guillemets, quant à ce qui constitue la nature de la représentation. Et sur ce point, on a véritablement une similarité très forte, à mon sens, entre cette idée de Carnap, selon laquelle aussi, dans la syntaxe logique, on n'a pas de notion de signification claire, indépendamment d'un cadre linguistique spécifié. Et cela signifie deux choses. Cela signifie, et cela ne vaut pas seulement pour les expressions logico-mathématiques, cela signifie plus généralement que l'on ne peut pas attribuer et déterminer la signification d'une proposition indépendamment du langage dans lequel elle figure. Et beaucoup plus fondamentalement pour Carnap, cela signifie que cette notion même de signification intuitive, qui est enfin, à la fois intuitive et à la fois telle qu'elle est utilisée par les philosophes, en tant que telle, n'est pas précise et doit être spécifiée, recevoir une définition qui permet de la clarifier. Et c'est ce que Carnap va définir sous le terme de contenu, qui est donc le contenu d'une proposition pour un langage donné, pour un système de règles déterminées, vise à se substituer à la notion vague de signification. Donc là encore, on a en ces deux sens la signification, donc, plus précisément pour Carnap, le contenu qui est déterminé sur la base des règles d'un langage. Bon, donc dans les deux cas, on n'a pas de notion de signification ou de fonctionnement de la signification indépendamment d'un certain cadre linguistique. Et en ce qui concerne la position de Wittgenstein et sa position par rapport à la question de savoir si on peut ou pas exprimer la syntaxe, il semble que cela conduise à réviser, pour ainsi dire, la position qu'il adoptait dans le Tractatus. Et il semble que cela le conduise à reconnaître ou à admettre bien que dans certains cas, il peut être légitime, utile, approprié d'indiquer les règles que l'on suit lorsque l'on utilise telle ou telle expression. Et donc, dans les dictées de Wittgenstein à Weismann, on trouve des affirmations qui vont dans ce sens. Par exemple, Wittgenstein affirme « Si on me demandait pourquoi je prononce un mot imprimé ainsi et pas autrement, je répondrais alors à l'aide d'une règle. Je dirais, eh bien, ce caractère se prononce de telle manière et celui-là de telle autre, etc. Toutefois, le processus ne se déroule pas de telle manière que je consulte la règle, comme par exemple un tableau phonétique, ni à la façon dont je... Le... » Ah, il doit y avoir un problème là dans mon... lorsque j'ai recopié la citation, où le processus ne se déroule pas à la façon dont je consulterai dans ma tête un tableau. Je ne peux rien faire d'autre que constater que le processus de la lecture n'est justement pas de cette sorte. En revanche, si l'on me demande quelle règle je suis, je l'indiquerai. Donc, Wittgenstein s'oppose à l'idée selon laquelle on suivrait une règle qui serait, en faisant appel à une représentation mentale antérieure à l'application ou à l'utilisation du signe, mais il ne rejette pas du tout la possibilité d'indiquer quelle règle on suit dans un cas particulier. Donc il souligne le fait qu'il ne s'agit pas de se référer à quelque chose d'extra-linguistique, et de ce point de vue, le statut des règles est également fondamentalement distinct de celui des autres propositions cognitives qui expriment véritablement une connaissance, hein, telles que les hypothèses. Mais pour autant, il n'est pas du tout impossible, donc, enfin, il est même parfaitement approprié d'indiquer dans certains cas les règles que l'on suit. Donc c'est quelque chose que Wittgenstein développe de la manière suivante lorsqu'il décrit, pour ainsi dire, le fonctionnement du langage comme le fonctionnement d'une machinerie linguistique qui serait déterminée par un ensemble de règles. Il affirme l'indication d'une règle et l'indication d'une règle. Cette indication se joue donc à l'intérieur du langage, c'est-à-dire à l'intérieur de ce que je peux fixer avant même que je sache ce qui va arriver. Et toujours dans le même ouvrage, il affirme « L'explication d'un mot ne nous intéresse qu'en tant que partie intégrante d'un système de règles et d'opérations, disons d'un calcul, donc seulement dans la mesure où elle détermine le fait de calculer à l'aide de ce mot. Bon, » évidemment, j'ai pris cette citation parce qu'elle fait penser... Elle est très proche de cette conception du langage de Carnap, selon laquelle le langage fonctionne comme un calcul, précisément comme un système de règles linguistiques qui permettent de calculer, qui déterminent une notion de conséquence pour le système et donc qui permettent de passer d'un énoncé à d'autres énoncés de façon légitime. Un autre élément qui est vraiment, je trouve, étonnamment proche de la position de Carnap dans les années 30, concerne la question de la tolérance et donc la question du statut également des propositions, enfin, ou des énoncés prétendument métaphysiques. Et je voulais à ce titre indiquer cette citation de Wittgenstein, toujours dans le même ouvrage, qui concerne cette fameuse phrase « le néant néantise » qui est également discutée par Carnap dans un article de 1930 ou 1931, « Le dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage », et où Wittgenstein dit ici, donc, « quand quelqu'un dit le néant néantise, nous pouvons alors, conformément à notre manière de considérer les choses, lui répondre à cela. Bon, mais que devons-nous faire de cette phrase? C'est-à-dire, de quoi s'ensuit-elle et à quoi conduit-elle? À partir de quelles expériences pouvons-nous en fixer les termes? Ou bien serait-ce vraiment à partir d'aucune? Quelle est sa fonction? Constitue-t-elle un énoncé de la science, celle d'une pierre de fondement sur laquelle reposent d'autres pierres à bâtir? Ou bien celle d'un argument? Je me déclare d'accord sur n'importe quoi du moment que je le sais. Je n'ai rien contre le fait que tu installes une roue qui tourne à vide dans la machine du langage du moment que je le sais, mais je désire savoir si elle tourne à vide ou si elle s'enclenche sur d'autres roues. Donc, il me semble que le point important ici, c'est que Wittgenstein insiste sur le fait, eh bien, précisément, qu'il faut être clair sur les principes qui déterminent le fonctionnement linguistique, et cela signifie qu'il faut être clair sur le statut des propositions que l'on utilise, à savoir est-ce qu'elles constituent des hypothèses, est-ce qu'elles constituent des définitions, est-ce qu'elles constituent des règles inférentielles, des propositions logiques, etc. Et de ce point de vue-là, dans cette citation du moins, il est, exprime une tolérance à l'égard de différents types d'usages possibles qui impliquent en contrepartie que le locuteur soit au clair et détermine clairement quel est le statut de la proposition considérée, quelle est la place qu'elle occupe et la fonction qu'elle occupe au sein du langage, à savoir proposition cognitive ou règle linguistique, hein, pour dire les choses rapidement. Et donc, de ce point de vue-là, on peut, là encore, voir une analogie avec le principe de tolérance qui est formulé par Carnap dans la syntaxe logique du langage, toujours en 1934, quand Carnap affirme « Il ne s'agit pas pour nous de fixer des interdits, mais de poser des conventions. En logique, il n'y a pas de morale. Chacun est libre de construire sa propre logique, c'est-à-dire sa propre forme de langage comme il le désire. Donc là encore, tolérance. Tout ce que l'on exige de lui, en contrepartie de la tolérance, est que s'il veut qu'on en discute, il indique clairement la manière dont il entend procéder et fournisse des règles syntaxiques plutôt que des arguments philosophiques. » Donc là, ces deux mouvements, à la fois la tolérance et à la fois l'exigence de déterminer clairement quel est le cadre linguistique au sein duquel on fonctionne et donc quelles sont les règles qui régissent et déterminent le fonctionnement de notre discours, Donc, idée que l'on retrouve, double détermination, qu'on retrouve à la fois dans la pensée de Wittgenstein et de Carnap dans les années 30, et dont on peut penser que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de conception a priori ou plus fondamentale de la nature de la représentation que précisément il est possible d'adopter cette attitude tolérante et à la fois cette exigence de déterminer précisément le cadre linguistique dans lequel on opère, avec lequel on opère. Bon, une fois que j'ai dit cela, je vais souligner, enfin, ou aller dans la direction opposée, et souligner le fait que là encore, donc malgré ces rapprochements qu'on peut faire et qui sont intéressants à mon sens, il semblerait que ces rapprochements ne doivent pas dissimuler le fait que Wittgenstein et Carnap adhèrent à des conceptions finalement très différentes à la fois du langage et de la philosophie, chose qui se manifeste dans une opposition importante et récurrente entre ce qu'on appelle la philosophie du langage ordinaire et la philosophie du langage idéal. Et ici, j'ai une citation de Moorman qui met l'accent donc là, sur la différence essentielle entre les deux types de conceptions et de programmes philosophiques, hein, lorsqu'il affirme « Le programme de planification du langage que Carnap défend explicitement depuis la syntaxe contredit dans ses principes la conception du langage et de la logique de Wittgenstein. » Et il continue en disant « Ces jugements opposés quant à la signification des langages formels qui distinguent de manière fondamentale les conceptions de Wittgenstein et de Carnap ont par la suite trouvé une forme institutionnelle dans l'opposition entre la philosophie du langage naturel et la philosophie du langage idéal. » Donc là, il y a un point important qui apparaît dans cette citation de Moorman et qui est également souligné par Carnap dès ce paragraphe 73 de la syntaxe, hein, après avoir souligné les points d'accord que j'ai mentionnés qui concernent le Tractatus. Carnap dit qu'il y a toujours eu un point de désaccord entre Wittgenstein et lui qui concerne précisément la question de la pertinence des langages formels. Et donc là, Carnap affirme « Principalement en raison de l'influence de Frege, j'avais toujours été profondément convaincu de la supériorité d'un langage soigneusement construit et de son utilité et même de son caractère indispensable pour l'analyse d'énoncés et de concepts à la fois en philosophie et en sciences. » Et il poursuit en disant « Wittgenstein avait une conception sceptique et parfois même négative de l'importance d'un langage symbolique pour la clarification et la correction des confusions dans le langage ordinaire ainsi que dans le langage habituel des philosophes. » Un autre point de désaccord, là encore lié, qui est souligné par Carnap, concerne en conséquence, la nature de la philosophie. Carnap souligne que, alors que la philosophie est pour Wittgenstein une activité de clarification, pour lui, elle peut être envisagée comme une théorie des formes de langage possibles. Elle consiste donc à mettre en place ou à proposer des formes de langage possibles qui peuvent être utilisées pour formuler la connaissance scientifique. Et la clarification à laquelle Carnap pense que le philosophe doit parvenir consiste précisément à proposer de telles formes de langage clairement spécifiées par un ensemble de règles. Et Carnap affirme ici, donc, toujours dans ce paragraphe 73 de la syntaxe, on aura montré que la logique de la science peut être formulée et qu'elle peut l'être non pas dans de pseudo-propositions dépourvues de sens, encore qu'indispensables en pratique. Donc ici, il vise le type de position de Wittgenstein dans le Tractatus. Donc, la logique de la science peut être formulée dans des propositions parfaitement correctes. La divergence d'opinion signalée ici, donc entre Wittgenstein et lui, a une incidence considérable sur la forme que prennent, du point de vue pratique, les recherches philosophiques. Donc, finalement, on a une incompatibilité, on aurait une incompatibilité fondamentale en ce qui concerne donc les orientations philosophiques défendues par ces deux auteurs. Et comme Mormann, on pourrait voir là l'illustration des deux voies divergentes qu'ont pris la philosophie linguistique et qui sont thématisées sous la forme d'un ensemble d'oppositions telles que philosophie du langage ordinaire contre philosophie formelle, une position qui oppose le langage naturel contre les langages construits, où on pourra avoir d'ailleurs aussi la logique, les logiques, et qui peut être également exprimée sous la forme d'une position descriptiviste qui aurait pour but de décrire la variété donc, des usages linguistiques dans le langage naturel, contre une position constructiviste qui a pour objectif de proposer des systèmes linguistiques pour l'expression de la connaissance scientifique. Et donc, par rapport au point de départ que j'avais caractérisé, on aurait une opposition entre ce que j'ai appelé un normativisme naturaliste et un normativisme constructiviste. Bon, je ne sais pas si ce sont des appellations très appropriées, mais en tout cas, ce que je veux souligner, c'est le fait qu'il y a ce cadre commun qui reconnaît, qui admet le fait que le langage est déterminé par un ensemble de règles et fonctionne sur la base d'un ensemble de règles, mais à partir de là, cette divergence fondamentale entre deux approches complètement différentes du fonctionnement du langage et de la philosophie, corrélativement. Alors, maintenant, ce que je voudrais examiner, c'est la question de savoir si... est-ce que j'ai encore du temps ? Oui. C'est la question de savoir si ces deux voies, finalement, sont véritablement incompatibles ou pas. Et je vais commencer par mentionner ici, des citations de Carnap et de Goodman, donc, qui sont du côté du constructivisme, si on reprend les distinctions que j'ai établies. Et donc Carnap affirme ici que les méthodes naturalistes et constructivistes ne sont pas nécessairement en compétition, mais elles sont plutôt mutuellement complémentaires, dans la mesure où chacune d'elles remplit un certain but. On verra que cette dernière partie de la phrase est importante. Et Goodman affirme pour sa part que l'opposition de ceux qui pratiquent l'analyse verbale à l'égard des principes du constructivisme l'a toujours surpris, car selon lui, il n'y a pas de conflit insurmontable d'objectifs ou même de méthodes. L'analyse verbale est un préliminaire nécessaire de la construction systématique, elle vient l'accompagner et elle a affaire à la même sphère de problèmes. Alors, il est tout à fait intéressant de souligner, comme le fait Goodman, que l'opposition à l'idée d'une complémentarité entre les deux approches semble venir plutôt du côté des naturalistes ou des philosophes du langage ordinaire que du côté des constructivistes. Et l'attitude conciliatrice de Carnap à l'égard de Wittgenstein, de ce point de vue, doit être confrontée à l'attitude de Wittgenstein qui était tout à fait hostile à l'égard de Carnap. Bon, il y a une petite anecdote intéressante de ce point de vue-là qui concerne la réaction de Wittgenstein lorsqu'il a appris que Carnap s'intéressait à l'espéranto, donc un langage construit. C'est Carnap qui raconte ça dans son autobiographie. Lorsque Wittgenstein a appris cela, il est rentré dans il a manifesté en tout cas une grande hostilité à l'égard d'un langage qui n'aurait pas évolué de manière naturelle et qui ne serait pas développé dans un environnement ou dans un une évolution naturelle. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, donc l'hostilité semble venir plutôt du côté des naturalistes. Et on va voir si... je voudrais essayer de voir si elle est légitime ou pas. Ce qu'il faut noter dans un premier temps, c'est que pour Carnap, en tous les cas, le langage fonctionne véritablement comme un outil de communication entre des locuteurs d'une communauté linguistique donnée, qui est adapté à un certain usage, par exemple descriptif, au fait de donner des ordres, de poser des questions, etc. Ce à quoi Carnap s'attache de manière privilégiée, c'est un usage assertorique, évidemment, mais je pense qu'il n'exclurait pas du tout la possibilité de distinguer différents types d'usages linguistiques. Et en fonction de l'usage considéré, cet outil de communication qu'est le langage présente un certain degré de précision en fonction de l'usage considéré et du type de but que la communication vise à remplir. Bon, ici, c'est une citation dans laquelle Carnap compare précisément le langage naturel et le langage formel à différents types d'outils plus ou moins précis selon le type d'usage que l'on veut en faire. Je ne vais pas lire cette citation. Ce qui me semble important, c'est que de ce point de vue-là, le constructivisme, c'est-à-dire l'entreprise qui consiste à formuler des cadres linguistiques sous la forme d'un système de règles de formation et de transformation qui détermine donc un langage comme calcul, cette entreprise-là, elle est restreinte précisément à un certain type d'usage et à un certain type de but considéré qui doit être rempli dans le cadre de cet usage. Donc le constructivisme a un domaine restreint, enfin clairement délimité plutôt, et Carnap affirme ainsi que selon lui, dans quelle mesure des moyens artificiels et élaborés sont appropriés ou non, cela dépend de la nature des problèmes philosophiques en question, ainsi que du but de la thérapie. Donc il souligne l'accord qu'il peut y avoir entre naturaliste et constructiviste en ce qui concerne le but général qui est de parvenir à une clarification, mais il insiste sur le fait que différents moyens peuvent être utilisés afin de parvenir à une telle clarification en fonction du type d'usage linguistique considéré et en fonction du but poursuivi. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas opposition entre l'approche formelle et l'analyse conceptuelle poursuivie dans le cadre de la philosophie du langage ordinaire. Et donc la pertinence de la méthode constructiviste est circonscrite à un certain domaine, délimité donc, par l'usage cognitif ou assertorique du langage et par l'exigence de précision élevée dans la description qui est corrélative à ce type d'usage linguistique. Alors, ici, on pourrait dire, bon, très bien, mais est-ce que ce type de position ne suppose pas plus fondamentalement une conception du fonctionnement du langage naturel pour pouvoir être valable, qui est problématique ? À savoir, l'idée selon laquelle, dans un certain type d'usage cognitif, il est pertinent d'utiliser les outils de la formalisation supposerait une conception plus générale du fonctionnement du langage naturel selon laquelle, précisément, le langage naturel fonctionnerait lui aussi selon un système de règles, seulement plus complexe et plus difficile à manier et que donc pour cette raison, eh bien, il faudrait procéder à la formalisation et à la construction de systèmes formels pour certains usages scientifiques. Voilà. Et donc, est-ce que cela ne suppose pas, finalement, le fait d'admettre la pertinence de l'approche constructiviste, une continuité problématique entre le fonctionnement du langage ordinaire et du langage idéal qui serait celui des théories scientifiques. Et ici, attendez, en fait, j'ai anticipé sur la prochaine diapositive. Pour rester donc, dans le cadre de l'approche précisément constructiviste, ce que je voudrais souligner encore, c'est que Carnap souligne bien le fait qu'il y a une continuité, dont je vais demander par la suite si elle n'est pas problématique, qu'il y a une continuité entre le langage ordinaire et le langage idéal. Et cette continuité apparaît clairement lorsqu'il thématise une certaine procédure d'analyse philosophique qu'il appelle explication et qu'il présente de la manière suivante. Une explication remplace un explicandum imprécis par un explicatum plus précis. Par conséquent, partout où l'on désire une plus grande précision dans la communication, donc toujours cette exigence de précision, on pourra recommander d'utiliser l'explicatum à la place de l'explicandum. L'explicatum peut appartenir au langage ordinaire, ou il se peut qu'il soit introduit comme un terme scientifique. Le seul réquisite essentiel est que l'explicatum soit plus précis que l'explicandum. Il importe peu de savoir à quelle partie du langage il appartient. L'usage de la logique symbolique et d'un langage système construit avec des règles syntaxiques et sémantiques explicites est la méthode la plus élaborée et la plus efficace. Pour des explications philosophiques, l'usage d'une telle méthode n'est recommandé que pour des cas spéciaux et non en général. Hein, donc là, on a plusieurs choses importantes, à mon sens, dans cette citation. À la fois, l'idée d'une continuité entre langage ordinaire et langage scientifique. Dans le cadre du langage naturel, on pourrait considérer qu'on a à la fois des usages ordinaires et des usages scientifiques, mais qui ne sont pas fondamentalement distincts. Et continuité donc, du langage naturel, ordinaire et scientifique, avec un langage formel, ou ce que Carnap appelle un langage système. La seule différence semblant être une différence de degré et une différence donc de plus grande précision, de plus grande systématicité. Et donc l'idée corrélative selon laquelle l'outil formel n'est approprié que pour des cas spéciaux et non pas de manière générale. Donc là, cette attitude conciliatrice, hein, enfin, en tout cas qui laisse de la place pour la pertinence d'une analyse conceptuelle du type de celle produite dans le cadre de la philosophie du langage ordinaire, précisément parce que le langage formel s'inscrit dans un type de contexte déterminé, où il est pertinent. Alors, c'est à ce point-là que l'on peut se demander, comme je l'ai dit tout à l'heure, si cette position n'est pas problématique, en ce qu'elle suppose précisément une continuité entre langage ordinaire et langage formel contestable. Hein. Et donc là, je vais mentionner une citation de Jacques Bouvresse dans La parole malheureuse, qui me semble éclairante à cet égard. Donc, Jacques Bouvresse affirmait en 71 que la logique de notre langage n'est évidemment pas la logique des Principia Mathematica, mais elle n'est pas non plus, ce qui est moins évident, une logique qui serait seulement beaucoup plus compliquée et plus difficile à expliciter que celle des Principia. Elle n'est ni un calcul formel qui gouverne réellement en profondeur l'usage de nos expressions, ni un calcul formel dont les règles qui gouvernent réellement l'usage de nos expressions constituent simplement une approximation plus ou moins exacte. C'est la raison pour laquelle Wittgenstein est resté jusqu'au bout, finalement, hein, fidèle à l'idée qu'en un certain sens, la logique du langage ne peut être décrite. Donc, on aurait finalement une incompatibilité fondamentale entre les deux types d'approche dans la mesure où le langage ordinaire ne fonctionnerait pas, même s'il est régi par un ensemble de règles, sur le mode d'un calcul ou d'un, d'un langage formel dont les règles précisément sont spécifiables, hein, et peuvent être déterminées. Alors, je pense qu'en ce point, ce qu'il faut souligner, c'est que il me semble que le point essentiel est que, en disant qu'il y a une distinction entre règles, ou que l'on peut formuler des règles qui déterminent le fonctionnement d'un cadre linguistique ou qui rendent possible la discussion au sein d'un cadre linguistique, Carnap, précisément, ne prétend pas donner une réponse au problème ou à la question beaucoup plus générale du fonctionnement du langage. Et de ce point de vue, il a une attitude qui est essentiellement pragmatique et qui consiste à dire que la philosophie a un statut essentiellement pratique. Il ne s'agit pas du tout d'élucider ou de donner une réponse, de prétendre donner une réponse à la question de savoir comment fonctionne le langage, comment est-ce qu'il est possible que nous ayons un discours doué de sens, que nous puissions représenter certains faits du monde, etc. Il s'agit seulement de formuler des cadres explicites qui rendent possible la discussion rationnelle de certains problèmes et l'expression de certaines connaissances. Et c'est la raison pour laquelle, de ce point de vue-là, fondamentalement pragmatique, il ne vise pas à répondre à, ou à donner une, à livrer une conception du fonctionnement du langage, eh bien, il est tout à fait possible d'intégrer l'analyse conceptuelle en tant que moyen de parvenir à cette fin de clarification dans cet objectif de donner le cadre d'une discussion rationnelle possible. Donc, on pourrait retracer le désaccord, le point de désaccord fondamental entre Wittgenstein et Carnap en ce qui concerne le statut de cette distinction entre règles d'un côté et énoncés de l'autre, en disant que pour Wittgenstein, cette distinction tient finalement à la nature de notre langage et que les discussions que Wittgenstein va mener après dans les recherches logiques sur les règles, sur ce que c'est que de suivre une règle, etc., s'inscrivent dans le cadre d'une interrogation sur la manière dont le langage fonctionne et fait sens. Bon, j'ai formulé les choses de manière un peu grossièrement en disant sur le lien langage-monde, hein, mais qui finalement sous-tend à chaque fois toute me semble-t-il, hein, la philosophie de Wittgenstein, à laquelle, donc, type de problématique qu'il va envisager différemment et auquel il va proposer des réponses ou des clarifications différentes, mais en tout cas qui sous-tend le projet de sa philosophie, qui n'est pas du tout celui de Carnap, puisque pour lui, de façon corrélative, sa distinction entre règles et énoncés s'inscrit dans une perspective fondamentalement pragmatique. Les règles sont simplement des moyens de fixer clairement le cadre d'un discours rationnel. Et en ce sens, les règles sont véritablement constitutives de la possibilité d'un discours rationnel étant donné un cadre linguistique donné. Et elles ne reposent sur aucune conception plus fondamentale et elles ne prétendent pas livrer d'élucidation ni de théorie, ni même d'élucidation sur le fonctionnement du langage. Et les critères donc, du choix des règles vont être uniquement, par conséquent, de nature pragmatique. Et précisément, il va être possible de choisir des règles, puisque ces règles ne sont pas contraintes par ou ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un fonctionnement naturel du langage. Alors, on pourra en discuter par la suite, et c'est le type je voudrais trouver un mot plus faible que reproche, mais enfin, en tout cas, le type d'inquiétude que je sais que Jacques Bourresse peut avoir par rapport à la position de Carnap, qui est que finalement, dans ce cas-là, on a une tolérance qui est tellement grande que n'importe quel type de discours peut être accepté ou reconnu comme légitime. Dire qu'il y a des critères pragmatiques du choix, c'est dire qu'il y a certaines contraintes qui s'exercent sur le choix des règles, hein, et la tolérance n'est pas sans limite. du point de vue de Carnap, ça on pourra en discuter par la suite. Ce que je voudrais souligner, c'est le fait que cette stratégie, cette distinction entre règles et énoncés fonctionne pour Carnap comme une stratégie interprétative et non pas donc comme une élucidation ou comme une théorie sur le fonctionnement du langage. Et Richard Chris, dans un article récent qui confronte les positions de Quine et de Carnap, affirme que ce n'est pas le propos de Carnap que de montrer qu'il y a une stratégie correcte. Donc, ce n'est pas son propos que de dire que cette stratégie interprétative est la bonne stratégie. Hein. Ce qu'il veut faire, c'est proposer des structures de raisonnement qui seront utiles pour la science. Donc, de nouveau, cette attitude ou ce programme, finalement, essentiellement pragmatique. Et donc, pour finir, je voudrais mentionner quelques arguments qui sont discutés ou indiqués dans cet article de Chris en faveur de la stratégie interprétative carnapienne. En premier lieu, elle permet de représenter naturellement le raisonnement tel qu'il se déroule dans les sciences, et elle permet en particulier de rendre compte du statut asymétrique de différentes affirmations ou de différentes assumptions au sein d'une discipline scientifique donnée. Elle permet de rendre compte de la diversité des modes de raisonnement en fonction des disciplines. Et elle permet également de désamorcer les conflits pseudo-théoriques. Et donc là, c'est en lien avec la critique de la métaphysique ou le statut des propositions métaphysiques soulignées par Carnap. Et enfin, ce que je voudrais dire pour finir, c'est qu'il me semble qu'on a véritablement là une position anti-dogmatique qui est explicite sur qui va jusqu'au bout, en tout cas, d'une critique de la prétention des philosophes à formuler des théories là où il ne peut être question, enfin là où il ne peut pas être question de théorie, puisque sur le statut même donc de cette distinction entre règles et énoncés qui est fondamentale pour le projet philosophique carnapien, eh bien Carnap reconnaît que cette distinction même ne relève que d'une stratégie interprétative et ne prétend en rien fournir une théorie, que ce soit au premier degré ou sous forme déguisée, sous forme d'une élucidation du fonctionnement du langage. Voilà. Les références des citations que j'ai indiquées sont données ici et je vous remercie.